Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Squarespace comme sponsor du podcast? D'abord parce que je sais qu'ici vous êtes très nombreux à entreprendre, avoir un podcast ou un projet qui nécessite d'être valorisé sur un site web. Et que Squarespace propose des outils vraiment simples d'utilisation pour avoir un site beau, propre et efficace en un minimum de temps. Quelques exemples de fonctionnalités, des templates de sites web personnalisables et adaptatifs pour créer des sites beaux et design en un temps record. L'outil email, le nerf de la guerre pour développer votre activité et communiquer avec vos clients. Ou encore leur outil SEO intégré pour émerger sur Google sans être un produit métier. Alors si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast une artiste spécialiste du monde culinaire, mais pas que. En réalité, sa spécialité, c'est la vie en général. Vous allez voir, cet épisode est différent, il est passionnant et surtout teinté d'un côté dolce vita, puisque Eleonora Galosso, c'est son nom. Cette artiste que j'aime beaucoup est naturellement italienne, comme vous pourrez le deviner, issue de Rome. Cet épisode va vous donner l'eau à la bouche, c'est indéniable, et je suis sûre que vous aurez envie de le croquer al dente comme des pastas. On a parlé de sa passion pour le beau, pour la cuisine, de comprendre en fait en quoi la cuisine avait justement changé sa vie, mais pas que, on a parlé également de son spectacle Dévorante, actuellement au Théâtre Mathurin à Paris et jusqu'au mois de mai, qui vaut vraiment le détour. 1h15 de rire, de joie, de tristesse, de la vie quoi, ça part dans tous les sens et c'est ça qu'on aime, c'est ça qui est beau. Je remercie Eleonora pour son authenticité, je vous laisse écouter ce podcast jusqu'au bout et surtout lui dire, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur Instagram où elle est bien présente, et surtout n'hésitez pas à aller voir son spectacle, donc Dévorante au Théâtre Mathurin. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Eleonora Galosso. Bonjour ma chère Eleonora.
Bonjour Pauline.
Je suis enchantée d'être avec toi, tu es resplendissante en plus. J'ai plein de questions sur toi, sur ton nouveau spectacle Dévorante. J'ai réfléchi au meilleur moyen de commencer, et je me suis dit que pour les personnes peut-être qui ne te connaîtraient pas encore, le mieux serait de revenir aux origines, à ton enfance, notamment italienne. On va entendre que tu as un accent chantant qui nous donne envie de partir en vacances, et donc je me suis dit, si tu l'acceptes, que j'aimerais commencer par le début, remonter un peu plus loin, et que tu me parles un peu de la petite Eleonora. Quand elle a grandi, où est-ce qu'elle a grandi, quel était son rêve d'enfant, qu'est-ce qu'elle voulait faire. Est-ce que tu peux me donner un petit peu de contexte sur la plus petite Eleonora?
Mais quelle question touchante, Pauline, c'est merveilleux. J'y pense souvent à la petite Eleonora. D'ailleurs, elle m'accompagne depuis un moment, certainement depuis que j'ai décidé de me lancer dans ces spectacles dévorantes. La petite Eleonora est née dans les Pouilles, donc cette région du sud de l'Italie où l'on trouve les plus grands nombres de légumes possibles et imaginables. Et c'est là où elle est née, c'est là où elle a ses racines, parmi ces terres rougeâtres et ces sentiers avec des milliers d'oliviers. Et elle a grandi, elle a été élevée, mal élevée, je pense, plutôt à Rome, qui est cette ville absolument magnifique où tout est possible, cette ville où on dirait qu'on a ces monuments. La ville des Roms, en fait, c'est comme un salon. Et on y marche, on se promène, et puis on sort d'une petite ruelle et on trouve une minuscule place dans laquelle peut rentrer un énorme monument. En fait, c'est comme Paris, mais version pliable. Et donc, les mêmes monuments, si on pense par exemple à la fontaine des Trevi, qui se trouve dans cette toute petite place, eh bien, fontaine à Paris, bon, on la mettrait dans une place aussi grande que la place de la Concorde, par exemple. Donc, il y a des perspectives qui sont différentes, mais je trouve que Rome et Paris quand même se ressemblent en termes de beauté. Mmh. La beauté étant un phénomène absolument essentiel dans ma vie. Et la petite Eleonora, vers ses 12 ans, elle a commencé à rêver de Paris. C'est parti d'un livre qui était posé sur une table basse chez elle et qui contenait les photos de Willy Ronis et Cartier-Bresson. Et elle a commencé à feuilleter ces livres. Et dans ces livres, il y avait les odeurs, ces mystères surannés que la ville de Paris contient encore. Et elle a décidé, elle a pris cette résolution. Un jour, j'irai vivre à Paris.
À 12 ans.
Oui.
C'est fou. C'est incroyable comme
elle
histoire.
Elle n'avait pas encore visité Paris. Et lorsque, 2 ans plus tard, elle avait fait un petit échange pour parler français, voilà, pour apprendre la langue. Elle était persuadée qu'elle aurait passé donc 15 jours à Paris. Elle était toute contente, alors que c'était ici les Moulineaux. Mmh. Et donc, elle a passé 2 semaines à ici les Moulineaux et 3 heures de promenade dans Paris. Et dans ces 3 heures, elle a tout pris et elle s'est dit « Oui, c'est une promesse tenue. Mmh. Je vais y aller. »
C'est incroyable comme histoire, j'adore.
Elle y est arrivée beaucoup plus tard, de toute façon.
Mais comme quoi, tu vois, avoir un rêve... Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup noté dans le podcast. Souvent, mes invités ont eu un moment, tu vois, dans leur vie où ils ont une vision, d'une certaine manière, de leur vie future, de leur rêve, quoi, de leur grand rêve. Et ça leur reste. Et toi, c'est incroyable, cette anecdote, parce que finalement, t'as mis des années avant d'y arriver. Quand est-ce que t'es arrivée à Paris, au moins, quand t'avais 20 ans, non, je pense.
Je suis plus. Arrivée à plusieurs reprises. J'étais arrachée par la ville aussi, plusieurs fois, mais je peux dire que de manière plus stable, je suis là depuis 10 années.
D'accord. Donc, effectivement, ce rêve finalement qui date d'il y a quelques années, tu t'y es accroché, il est resté au fond imprimé, quoi, d'une certaine manière, au fond de ton esprit et de ta mémoire, et puis tu l'as fait. Bravo Eleonora, franchement ça fait plaisir. Et alors quand même petit side note, mais juste ta description de Rome me donne envie d'aller manger des pâtes, de partir à Rome et de ne plus jamais revenir. Franchement c'est formidable. Eleonora, comment est-ce que tu tombes amoureuse du monde culinaire? Parce que c'est quand même une grosse partie de ta vie. Maintenant en fait qui est liée aussi au monde du spectacle et une forme d'engagement quand même assez marquée, on va en parler. Mais quand même avant toute chose, t'as commencé ta carrière dans le monde culinaire et d'ailleurs avec beaucoup de succès éditoriaux, on va en parler. Mais qu'est-ce qui fait en fait que tu as eu cette fibre quoi qui a poussé en toi?
Tout part de la défense. Je ne pouvais pas rentrer parmi les casseroles de mes grand-mères quand j'étais petite.
Elle ne voulait pas de toi.
Et dans les, en fait, dans les elle casseroles. Pensait que la cuisine n'était pas un lieu pour les enfants. Mmh. Et donc j'espionnais depuis la serrure. Et c'était les Graals. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces odeurs ramenaient à quelque chose d'extrêmement spécifique. La mémoire des sens, en fait, elle est partie par là. Et j'ai passé donc tous mes étés avec mes grand-mères et mon arrière-grand-mère dans une atmosphère qu'on pourrait surnommer des guépardesques.
Génial.
Et en hiver, j'ai passé du temps avec... je vivais, en fait. Et en hiver, je vivais avec ma mère, qui était une maman célibataire, jeune, et qui m'est cuisinait des plats de chez Picard, du correspondant de chez Picard italien. Et donc, en fait, il y avait un grand saut entre mes étés goûteuses et mes hivers douteux. Et donc... Et donc, je savais pas trop où me placer. Et j'ai commencé à essayer de reproduire la promesse et les rêves que tous ces odeurs magnifiques contenaient, assez tôt. Et c'était une manière pour moi de fédérer les gens. Et je me suis rendu compte très vite que souvent, autour d'une table, tout se passe. Mmh. Et que quand les plats est bon, en fait, c'est une métaphore de la vie et que ça permet aux gens de délier les langues et les plus belles conversations, mais même les plus atroces, elles ont souvent lieu à table. Et donc, c'est vraiment un lieu christique pour moi où tout se passe. Pour revenir à ma carrière, au début, j'étais journaliste. Donc, j'ai travaillé dans une radio. Dans la nuit. à 20 ans environ, et j'ai travaillé avec une femme, donc j'ai co-présenté une émission avec une femme qui appartenait à la génération des mammaires, donc ça s'appelait « Deux la nuit », et donc on était deux générations la nuit qui parlaient bon, à ceux qui conduisaient des cars bon, voilà, les personnes qui habitent la nuit et qui ont envie de causer. Moi, j'ai toujours adoré ça, et donc on faisait des confidences dans cette espèce de cuisine radiophonique la nuit, et on parlait cinéma. Et donc, ma plus grande passion en tant que journaliste était les cinémas. J'ai été cinéphile depuis très très jeune, et vraiment j'ai été formée au regard à travers un mélange savoureux entre la dolce vita italienne, la commedia à l'italienne des années 50, 60 et 70, avec Federico Fellini, Dino Risi, Ettore Scola, et la nouvelle vague française, et Godard, Truffaut. Et donc, ces deux goûts se sont mélangés très naturellement chez moi et ont créé un langage qui est mon langage d'esprit depuis toujours. Donc, j'ai gardé cela et j'ai continué d'être journaliste jusqu'à ce que je me suis retrouvée à travailler pour un journal magnifique qui, en revanche, n'avait pas beaucoup de moyens et qui m'est demandé d'interviewer des artistes régulièrement. Et je ne pouvais me permettre que de leur offrir un café au comptoir. Je voyais bien que la réponse qu'ils me donnaient, c'était souvent de l'ordre du communiqué de presse. Donc je me disais, mais je suis vraiment nulle en fait. Qu'est-ce qui fait que ces personnes si créatives ne s'ouvrent pas à moi? Et bien, c'est parce que la confidence n'y est pas, et donc il faut que je crée en effet des participations plus intéressantes. Du coup, avec les mêmes budgets avec lesquels j'aurais pu leur offrir un café au comptoir, j'ai décidé de les inviter chez moi.
C'est génial, cette histoire.
Pour faire un plat de pasta et les interviewer. Et alors, Pauline, là, tout d'un coup...
Tout s'est passé, c'était la magie.
Tout d'un coup, c'était beaucoup plus intéressant.
J'adore.
Et non seulement j'ai réussi à avoir des anecdotes artistiques très intéressantes, mais des anecdotes personnelles. Et on sait bien que toute personne, tout entrepreneur et tout artiste, en fait, part toujours de quelque chose qui est de l'ordre d'une douleur, qui est de l'ordre d'un rêve, d'un manque. Et c'est là que je voulais aller. Moi, je voulais aller au fond de ça. Et j'ai réussi à faire ça à travers la nourriture, qui est juste un langage à décoder, en fait.
J'adore cette anecdote, parce qu'au final, t'as fait preuve d'une ressource. Et surtout, ce que j'observe souvent dans ce podcast, c'est des personnes qui ont des contraintes où il y a des obstacles. Là, l'obstacle, c'est tu n'arrives pas à faire accoucher, quoi, d'une certaine manière, ces artistes et à aller, comme tu dis, au fond des choses avec eux. Et du coup, tu prends un chemin de traverse, quoi, un chemin détourné, mais pour réussir au travers de ton ADN à les faire parler, à les faire se sentir bien, se sentir libre de te parler. J'adore l'idée. Franchement, ça me donne envie d'organiser des podcasts avec des pasta.
Mais l'idée de toucher à des ingrédients ensemble, ouais. On touche à quelque chose ensemble, donc on est dans l'intimité. Et c'est immédiat. Et cette immédiateté, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché. Et puis, par cause, en fait, j'ai réuni plein d'histoires autour de ma table et j'ai commencé à écrire des livres. Et pourquoi on en revient au cinéma? Parce que, en fait, dans chacun de mes livres, chaque recette prend un espace qui est assez exigu, parce que j'aime les recettes qui sont faciles à se faire, qui se font toutes seules et qui sont très goûteuses et qui donnent beaucoup de satisfaction, mais qui ont une histoire. Donc chaque recette cache une anecdote. Pourquoi certaines recettes historiques arrivent à nous et d'autres ne survivent pas? C'est souvent parce que ces recettes sont liées et enracinées à un terroir, à des gens, à des œuvres d'art, souvent c'est le cas en Italie, à des films. Et j'ai voulu, tout au long de ma carrière d'auteur culinaire, raconter cela. Donc, raconter les mystères qui se cachent derrière une recette et ces conversations qui en amène d'autres, en fait. Et la recette est donc une excuse pour arriver à autre chose. Et c'est quelque chose qui doit être très accessible et que tout le monde peut reproduire. Et j'ai toujours été attirée par les recettes qui sont des vrais phénomènes culturels et pas très attirée par des recettes qui représentent un personnage parce que j'adore les chefs et j'ai, Dieu sait si j'ai fait beaucoup des restaurants et j'aime goûter et j'aime tester. Mais en fait, il y a une limite à ça, c'est qu'en fait, une fois que les chefs n'est plus là, la recette n'est plus incarnée. Mmh. Alors que lorsque la recette elle incarne une culture, alors on mange de la culture.
J'aime beaucoup l'idée. Écoute, c'est drôle parce que j'allais te demander dans mes questions comment tu pouvais expliquer le succès de tes livres culinaires. Je m'explique, finalement, des personnes qui écrivent des livres culinaires, il y en a beaucoup, et toi quand même, les tiens sont sortis du lot, ils ont été traduits, je sais pas combien de langues, mais un nombre incalculable de langues, enfin je veux dire, ça a été des vrais succès éditoriaux. Et en fait, je pense que tu nous as donné la réponse finalement, c'est que c'était pas simplement des recettes, c'était des histoires autour des recettes et ce storytelling, quoi, d'une certaine manière, le fait de vouloir donner à voir la culture derrière la recette, j'imagine que c'est ça en fait qui a fait cette différence et qui a donné aussi envie aux personnes qui lisaient ces livres en fait d'en parler, de les diffuser. Enfin, c'est une très belle, je trouve, une très belle manière en fait de présenter les choses et ça donne très envie de découvrir tes livres.
Merci beaucoup, Paul.
J'ai l'impression que la culture et le beau, tu l'as évoqué, c'est des aspects très importants de ta vie. T'as dit tout à l'heure, et je rebondis dessus, le beau est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Est-ce que tu pourrais expliciter ce que tu veux dire? Est-ce que tu pourrais développer? Je pense que ça va peut-être faire un lien avec le spectacle aussi, mais est-ce que tu te rappelles peut-être de certains chocs émotionnels de beau, de... En fait, en quoi finalement le beau est présent dans ta vie?
Tout d'abord, j'ai été extrêmement gâtée parce que j'ai grandi dans une des plus belles villes du monde, qui est Rome. Et donc, j'ai eu un accès à la beauté, une normalisation de la beauté depuis très jeune. Et la beauté, en fait, me calme. C'est-à-dire lorsque je me retrouve dans le chaos, dans le bawawa. On dit pas comme ça, mais c'est mon mot à moi, de la ville.
Le bawawa, d'accord, le brouhaha. Ouais.
Voilà, en fait, quand je me retrouve dans les chaos des urbains, je rentre dans une église. Alors, je suis pas particulièrement pratiquante, mais en fait, l'odeur de l'encens, la beauté des œuvres d'art, le fait que les gens se réunissent et qu'ils soient tous concentrés, et dans une forme de méditation collective, la même chose on la trouve dans des musées, la même chose on la trouve dans des théâtres. En fait, il y a ces silences autour de quelque chose qui se passe et qui est tissé en fait comme de la dentelle. C'est ça qui me touche beaucoup et qui me laisse étonnée. Et lorsqu'on se laisse étonner par la vie, on autorise des nouveaux concepts à rentrer à nous et donc on s'enrichit. Et c'est là où l'angle de la beauté, pour moi, est essentiel. Et c'est un vrai baume.
J'aime beaucoup. J'aimerais parler du spectacle. Et au-delà du spectacle, tu sais que ce podcast, il s'adresse aussi beaucoup à des entrepreneurs. J'aimerais parler à la businesswoman aussi que j'ai en face de moi, qui a monté, et tu me l'as dit, ta propre entreprise de production pour produire ton spectacle. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix?
Alors, je n'étais pas persuadée de faire ces choix depuis les débuts. En fait, je suis rentrée dans les mondes du théâtre parce que, bon, tout d'abord, c'est beau, c'est pourpre, c'est couleur pompéien qu'on trouve dans les rideaux. C'est quelque chose, pour moi, une vraie richesse que Paris a. Les nombres des théâtres qu'on peut retrouver dans cette ville, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je suis là, que je me suis installée dans cette ville, parce qu'elle est extrêmement théâtrale. Et j'ai longtemps été spectatrice, donc j'ai regardé énormément des spectacles et je me suis rendu compte qu'effectivement dans les mondes du show business théâtral parisien, eh bien il est géré depuis plutôt longtemps par un nombre assez restreint des des productions qui gèrent avec l'oreille et leur vision un nombre infini presque des spectacles.
Oui, c'est finalement un petit milieu où il y a beaucoup de personnes qui participent, mais tenu quand même par quelques entreprises qui connaissent très bien le secteur et qui sont qui ont pignon sur rue, quoi.
Exactement. Et en fait, cette histoire que je raconte avec Dévorante, c'est une histoire qui m'habitait depuis désormais quelques temps. J'ai mis du temps à la tisser. Et je la sens profondément personnelle. Quand j'ai fait ma première lecture, parce que c'est exactement comme ça que ça se passe lorsqu'on veut présenter un projet théâtral, on demande à une salle de nous prêter les lieux et on organise une lecture devant les producteurs. Et donc, j'ai invité quelques producteurs à écouter cette histoire et effectivement, j'ai pu causer avec eux à la fin de cette lecture et je me suis rendu compte assez vite que en fait, il fallait que je rentre sous un prisme qui était la ligne éditoriale du producteur. Et ça, c'est très bien. Alors, je me suis dit à ces moments-là, est-ce que je n'ai pas fait la même chose avec mes livres? Oui, parce que tous les auteurs ont besoin de leur éditeur. S'auto-éditer étant quelque chose de très compliqué, je me suis rendu compte qu'avec mes livres, j'avais fait toujours des petites concessions je me suis rendu compte qu'avec mes livres, j'avais toujours fait des petites concessions pour pouvoir aller dans la direction éditoriale de la maison d'édition. Et je n'avais pas tout à fait toujours raconté l'histoire pleinement que j'aurais voulu raconter. Et du coup, quand je me suis retrouvée devant ces producteurs qui pourtant avaient des excellents conseils pour moi, je me suis dit, et si je prenais ces projets et je les portais pleinement sur mes épaules, forte de mon expérience passée dans les mondes éditoriales et forte de la vision que j'ai d'amener un projet qui soit à la fois un projet théâtral, donc un spectacle, mais aussi un projet social, des préventions et engagé. Cette aile-là de prévention engagée est quelque chose qui peut-être ne faisait pas partie du mélange d'une production traditionnelle. Et c'est pourquoi
j'ai voulu... Ça peut être un peu plus risqué, ou ils peuvent se... Enfin, je peux imaginer que c'est pas quelque chose de classique. Oui. Et donc, voilà, ça sort de la norme, on va dire, d'une production.
C'est un ovni. Les spectacles en soi est un ovni, est quelque chose d'hybride qui fluctue entre les légers et les graves à tout moment. Et pour moi, c'est comme la vie. On se retrouve tous à chialer parce que il y a quelque chose de très dur qui nous arrive et puis au bout de 30 secondes on reçoit un coup de fil, il faut se remettre en pleine forme, répondre au téléphone et tout va bien, la vie est merveilleuse. En fait, oui, c'est un peu bipolaire, mais est-ce que notre vie ne nous pousse pas à être comme ça? Je trouve que oui. Et voilà. Donc, pour revenir à la production, je me suis dit, c'est très intéressant l'idée de non seulement proposer un spectacle sur scène, mais aussi de rentrer dans une forme d'entrepreneuriat culturel des natures engagées, sachant que ma vision, elle est cristalline dans le sens où j'ai à moi cette dramaturgie italienne et qui est composée, comme dans un film de Sorrentino, par ces silences musicaux interrompus soudainement par quelque chose d'extrêmement énergétique et joyeux. C'est quelque chose qui est véritablement profondément ancré dans la culture italienne. Et j'ai envie de démystifier cela et de le ramener à un langage dramaturgique pour la France, avec toujours un soutien qui soit d'ordre social. Je trouve que notre société s'est dit très affranchie de plein de choses, mais nous sommes bourrés des tabous. Sur plein des sujets. Donc, il y a plein des choses à regarder. Dans ces premiers spectacles, je regarde la notion de harcèlement et des comment le harcèlement se construit, quels sont les mécanismes d'une emprise et est-ce que il y a véritablement un persécuteur et une victime.
Ça, c'est très intéressant. Je me rappelle avoir lu une phrase que j'ai trouvée très forte où tu parles de relations toxiques et tu dis, ce qui est assez fou, je me permets de la lire et je veux bien qu'on en parle. Donc, ces relations toxiques comportent énormément des secrets et des tabous quand on est sous emprise, ce que tu viens de dire. En sortir a été très difficile, donc tu parles de ton expérience. Mon plus gros défi a été d'accepter que j'étais la principale responsable de l'influence toxique sous laquelle je me trouvais, ce qui est très fort quand même comme phrase.
C'est en prenant responsabilité du fait qu'on fait partie d'une situation que je ne veux pas appeler un problème, c'est une situation, qu'on comprend qu'on est aussi partie de la solution. Et si à chaque fois que je tombe par terre, je me dis que c'est la faute au sol, eh bien, je vais continuer de tomber par terre et être tout le temps malheureuse dans ma vie. Mon désir, c'est véritablement d'amener les femmes ou les hommes, d'ailleurs, à faire une réflexion et une introspection de ce qui arrive à leur propre tambouille, en fait. Chacun de nous part avec les mêmes ingrédients dans la vie, hein, et puis on décide de faire telle ou telle recette, une recette qui marche plus ou moins bien dans la vie personnelle, amicale, sentimentale, familiale ou professionnelle. Ça s'applique vraiment à tout. Est-ce qu'on est en puissance de nos moyens? Est-ce qu'on est bien conscient de ce que nous sommes en train de composer? Ou est-ce que on a la tendance à dire « Eh ben oui, mais lui, il s'est mal comporté avec moi ». C'est certain que des personnes répondent à ce que nous proposons. Donc, moi, ce que je regarde dans ces spectacles, c'est la proposition que nous faisons. Et oui, évidemment, j'ai été dans des situations toxiques dans ma vie, mais est-ce que ce n'était pas les films que j'avais envie de vivre? Est-ce que c'était pas ma cinématographie personnelle qui faisait que j'avais envie de quelque chose de fort, de passionnel? Et à un moment,
tu l'as autorisé en tout cas.
Je l'ai autorisé et je n'ai pas tout de suite vu, donc j'étais un tout petit peu naïve, le revers de la médaille, l'autre partie du décor qui était, bah oui, tu peux tomber très bas et te faire très 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 mal au popotin. Et voilà, et j'ai voulu le faire, je me suis fait très mal au popotin, mais finalement c'était à moi de me relever et c'était à moi de comprendre quels étaient les comportements qui ont suscité chez l'autre d'autres comportements qui ont fait que la cohabitation des univers était toxique. Donc je pense que autant que la contrepartie était toxique envers moi, j'étais toxique envers lui. C'était vraiment quelque chose qui a été co-créé. J'en suis profondément persuadée. Il y a certains événements de l'ordre du magique ou de l'ordre du désespérant qui arrive à certains profils en particulier. Donc, moi, j'invite à une libération de tout ça et aussi à se dire, racontons-nous la vérité sur ce que nous sommes vraiment, sur ce que nous aimons vraiment. Arrêtons de toujours vouloir trouver des justifications. Et des excuses, et transformons les excuses en raisons.
Quelles sont les réactions à ce genre d'engagement? Parce que c'est véritablement un engagement. C'est pas facile ce que tu dis, parce que finalement tu mets les gens devant leurs responsabilités, quoi. Et tu te le fais à toi-même la première, ce qui est très bien, parce que du coup tu fais preuve d'exemplarité. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans le déni, ou qui sont très ancrées justement dans ces tabous, dans ces excuses. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes peut-être qui nous écoutent, qui se disent ok Eleonora, toi peut-être que tu te le dis comme ça, mais moi quand même, vraiment j'étais une victime, au final j'ai rien demandé à personne, cette personne elle est venue me chercher, on a eu une relation toxique et c'est pas de ma faute, ce qui est quand même, j'imagine, quelque chose qui doit arriver de temps en temps.
D'où l'analogie avec la cuisine. La cuisine, c'est quelque chose qui se passe de manière tangible tout de suite. Je suis présentée avec un plat de pasta amatriciana, je sens l'odeur, je sais avant même de goûter c'est à quoi je m'attends, et je goûte la première fourchette et je me dis oui, c'est exactement ça. Et c'est viscéral. Au même titre, lorsqu'on rencontre tout sortes de personnes dans la vie, on sait profondément si ça va nous faire du bien ou pas. Et puis, on décide de s'aveugler. Mais les mains sur les yeux, pour nous aveugler, c'est pas l'autre qui nous les met. C'est nous qui les mettons. Nous décidons que c'est bon pour nous. Et donc, mon travail dans ces spectacles, c'est de dire, lorsque nous décidons que nous nous aveuglons, d'où ça vient? Eh bien, ça part d'une fêlure aussi banale qu'universelle. Une fêlure qui vient certainement dès l'enfance. Une phrase maladroite dite par nos pères ou nos mères qui est devenue notre légende. Mmh. Il m'a dit comme ça, et donc, à partir de maintenant, je sentirai profondément que je ne voudrais rien du tout. Mais, et si on changeait nos légendes? Et si on décidait qu'en fait, ces premiers 15 ans de vie, qui souvent nous résumons en 2 minutes de récit, étaient un récit différent, un récit qui nous permet d'être créateurs plutôt que destructeurs de nos vies. Voulons-nous du bien? On n'a qu'une vie.
J'adore. Et puis alors, une petite anecdote, j'écoutais un podcast récemment sur la mémoire et qui explique qu'on a quand même tous beaucoup de biais sur la mémoire. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, tu sais, sur le fait que des personnes sont persuadées qu'il leur est arrivé quelque chose ou qu'une phrase a été dite, mais c'est tellement en fait ancré dans nos esprits que c'est un discours qu'on s'est raconté. Et au final, d'ailleurs, ça pose problème parfois quand il y a des témoignages de personnes qui ont vécu des agressions, des choses comme ça, qui peuvent réinventer, mais de manière hyper sincère, la réalité et s'auto-persuader en fait que tel événement s'est passé, alors qu'en réalité, c'est notre mémoire en fait qui nous joue des tours, parce que dans notre esprit, si tu veux, on s'est raconté un récit. Et donc, ça met les choses en perspective, parce que je pense que notre mémoire et parfois le fait qu'on pense que quelque chose est arrivé est à prendre avec des pincettes, dans le sens où notre mémoire nous joue beaucoup plus de tours qu'on ne croit.
Il faut accompagner notre mémoire, exactement comme l'enfant dont on parlait tout à l'heure. Notre mémoire est un enfant qui est un peu capricieux et qui veut être rassuré tout le temps. Et donc c'est à nous de donner les bons ingrédients à notre enfant intérieur et de lui dire que tout va bien dans les meilleurs du monde, que tout le monde a fait de son mieux.
Ouais.
En voir fait, le positif, quoi. Ce n'est pas que nous les humains, c'est aussi tous ceux qui vivent autour de nous, ceux qui ont été responsables de notre éducation, et nos amis, nos partenaires de vie. Nous sommes tous très humains, il n'y a pas des monstres et il n'y a pas des saints, en fait. On a tous en nous les deux natures. Et puis, c'est à notre bonne intelligence d'essayer d'utiliser, de captiver la vie avec l'une ou l'autre.
Le spectacle est un grand succès, puisque tu m'as annoncé que vous aviez déjà décidé de prolonger, et j'en suis vraiment hyper heureuse pour toi. Et j'ai trouvé une anecdote intéressante, c'est que tu as réfléchi vraiment dans les détails, au-delà du fond, à la forme du spectacle. Donc, on parlait des sons, du rythme, et puis notamment aussi de la durée du spectacle. Et tu me disais en préambule, avant qu'on enregistre, bah moi, j'ai fait le choix que ce soit un spectacle très court. Donc, c'est quoi, 1h30 de mémoire?
C'est 1h15,
donc très très court pour un spectacle. Enfin, c'est original comme parti pris, parce que souvent quand on a une scène, on en profite, on y reste 3 heures et puis on vide son sac, quoi. Et toi, en fait, t'as fait le choix de couper tout le gras, de te concentrer, et là je file la métaphore culinaire, vraiment sur l'essence, quoi, du plat, pour ne servir finalement qu'un plat parfaitement épuré, qui puisse être dégusté rapidement, mais du coup dont on a enlevé tout le superflu. Pourquoi ce choix?
Donc, probablement, il est lié au fait que je suis une passionnée des théâtres, que je regarde au moins 3 spectacles par semaine, et que même avec les plus grands succès, je me rends compte qu'ils sont toujours un quart d'heure trop long. Et c'est ma vision personnelle. Et donc, je me suis dit, je commence dans ce milieu, je ne veux pas me permettre de tenir les gens trop longtemps en otage, d'une part. De l'autre, mon souhait le plus profond, c'est que ces spectacles soient en fait matière des réflexions. Donc je ne veux pas, moi je vais donner toute une série de questionnements que les gens vont trouver intéressant peut-être pour pouvoir réfléchir. Une des choses qu'on me dit le plus souvent lorsque les spectateurs sortent du spectacle, c'est que ça leur donne matière d'échange. Des copines qui viennent entre elles, des couples, des amis, des papas et des filles. Ils me disent, en fait, c'est un spectacle qui nous permet de parler des choses, de mettre des sujets sur la table qu'on n'a pas mis depuis très très longtemps, voire jamais, et de le faire de manière assez légère. En fait, j'aime pas les pathos. Je trouve que le pathos est quelque chose de victimisant. J'aime pas le concept de victime, même si Dieu sait, on peut être victime dans de plein de choses. Moi, je peux sortir dans la rue et me faire prendre par une voiture et je vais être victime de cet accident-là. Mais il faut toujours tenir les yeux ouverts, c'est ça ce que je veux dire. Dans la mesure du possible, nous sommes ceux qui décident pour leur propre vie en fait, pour plein de choses et plein d'éléments. Et c'est ça, en fait, c'est à quoi j'ai envie d'inviter les spectateurs lorsqu'ils viennent voir Dévorante.
Eh ben écoute, je te remercie de partager toutes ces réflexions. Je suis sûre qu'elles sont très très utiles aux personnes qui vont voir le spectacle. Et je vous invite, messieurs dames, à aller faire un petit tour parce que en plus 1h15, ça passe quand même bien vite. Donc profitez-en. Ça va pas durer en plus toute la vie. Donc il faut profiter de ce spectacle quand il est en train d'être joué. Maintenant, si ça te va, j'aimerais bien te parler un peu plus retour en arrière sur la cuisine, parce qu'il y avait une question que je voulais te poser, tu vois, je saute du coq à l'âne et j'ai pas eu le temps de te la poser. C'est de comprendre finalement qu'est-ce que la cuisine t'a apporté en tant que femme, en tant qu'être humain. Qu'est-ce que la cuisine t'a apporté dans la vie? Parce que ce spectacle, il s'appelle Dévorante, il y a quand même un lien et t'arrêtes pas de nous faire des métaphores avec la cuisine. On sent que t'as l'Italie en toi, mais t'as aussi quand même la cuisine et la gastronomie en toi, le monde culinaire. J'aimerais donc comprendre en fait vraiment est-ce que la cuisine a changé ta vie?
Oh, tout à fait. C'est grâce à la cuisine que j'ai pu parler avec des gens qui ne parlent pas ma même langue. C'est une langue universelle à travers laquelle on peut présenter nos hommages, nos excuses, faire comprendre aux gens combien on tient à eux et les désarçonner également. C'est pour moi un terroir de curiosité qui s'est prête à tous, parce que on veut tous s'alimenter 3 fois par jour. Donc c'est une joie inopinée, c'est magnifique. la cuisine étant aussi une métaphore de la vie. Pourquoi Dévorante? Parce que on dévore un plat et on dévore aussi une passion. Et on se laisse dévorer par la vie également, ou bien on la dévore. Et puis, pourquoi une cuisine? Eh bien, la cuisine est vraiment les lieux clés pour être avec les autres, pour échanger. Mais c'est aussi les lieux où on montre nos casseroles, où on montre nos plus beaux plats. Est-ce qu'on préfère être servi dans une jolie salle à manger avec des plats de Limoges tout à fait parfaits, ou est-ce que on préfère être servi dans des plats qui sont un tout petit peu ébréchés mais qui ont des histoires à raconter en fait? C'est ça que j'ai toujours en tête lorsque les gens viennent dans ma cuisine. Donc, dans ma vie de tous les jours, comme dans Dévorante, c'est ma cuisine, mais c'est la leur aussi. Et l'idée, c'est de se dire, on est ensemble et on crée quelque chose qu'on va par la suite ingérer. C'est très, très fort. Hein. Lorsqu'on goûte un plat, on comprend tout et on a envie de savoir plus de choses. Ça amène des conversations. Et c'est là où la cuisine m'a sauvée quelque part, parce que je trouve aussi qu'il y a un côté extrêmement thérapeutique dans les fêtes de cuisiner, qui est très rassurant et qui est très qui prend soin, en fait. Et l'idée de prendre soin de l'autre et de soi-même, et de créer des moments ponctuels, des célébrations de la vie, aussi simples qu'ils puissent être. Hein. Chez moi, je reçois toujours à la bougie, avec des fleurs qui ne sont jamais parfaites, toujours un tout petit peu fanées, et des nappes qui viennent de ma famille, parce que j'ai la tendance à mélanger toujours quelque chose de vieux avec quelque chose de frais et de nouveau. Et tout cela a l'air très viscontienne. Mais enfin, ce que je mets dans les plats est très, très basique. Hein. C'est de la pasta à la tomate et puis c'est bon, quoi.
C'est parfait. C'est ce qu'on aime. Éléonora, j'arrive au moment de mon grand crible, qui sont les questions de fin du podcast. Tu verras, c'est des questions un peu personnelles. La première de ces questions, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de trucs personnels pour l'instant en plus. Donc, est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec ou un moment de doute ou un moment difficile dont tu pourrais nous parler ? Au-delà du moment difficile, c'est toujours bien de voir qu'on en a tous, mais au-delà de ça, c'est quels sont les enseignements que tu en as tirés de cette période ou de cet échec que tu aurais vécu ?
Chère Pauline, je vis des échecs quotidiennement.
Bon, tu es humaine donc.
Je suis quelqu'un de assez anxieux.
Ok.
Je suis obsessive compulsive. Quand j'ai une idée en tête, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. J'ai une forme de perfection en tête qui est impossible à atteindre parce que bon, il y a trop de phénomènes autour de moi qui font que bah je ne vis pas seule et que du coup chaque entreprise que je fais bon est assujettie à des contretemps et donc j'ai des petits échecs tous les jours. Mais je me rends compte de plus en plus que les échecs sont véritablement des petites leçons qui me permettent de comprendre quelle est la prochaine étape logique, en fait. Tout est très logique, même dans l'échec. Penser que la vie n'est qu'une réussite n'est pas quelque chose qui me sert, parce que la vie, c'est vie. C'est pas un succès ou un échec. La vie, c'est vie, et donc il y a plein de couleurs. La météo change, les saisons changent, et les succès arrivent, les échecs arrivent pour pouvoir goûter les succès après. Et les échecs, souvent, c'est en fait de j'ai les mots, hein, juste un instant. Les échecs, c'est des leçons déguisées. Donc, c'est des leçons de vie déguisées qui permettent de passer à la prochaine étape pour changer de fréquence, en fait. Peut-être la fréquence qu'on est en train d'utiliser pour arriver d'un point A à un point B n'est pas la bonne. Du coup, l'échec arrive pour nous dire « change des fréquences, va ailleurs ». Et puis, ben voilà, il faut jouer à la vie. Et c'est très drôle et c'est très intéressant et il y a toujours des surprises. Donc, l'idée de l'échec, c'est de ne pas s'arrêter sur l'échec. C'est de bien le vivre. Alors moi, je vis mes échecs, mais très intensement. Hein. Je me referme, je veux plus voir personne. Mais je donne un timing limite à ça.
Ah, c'est intéressant.
Donc, je sais que je peux être extrêmement intense dans le désarroi. En revanche, au bout d'un moment, bon bah, va boire aller. Ton apéritif, hein, parce que là, c'est bon.
C'est le temps de cuisson.
Exact. Il faut que ça soit al dente.
Exactement, l'échec al dente. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment ? Ça peut être personnel ou professionnel ou autre, je ne sais pas.
Probablement, j'aurais commencé à faire du théâtre plus tôt. Je pense que dans tout au long de ma vie, de ma carrière, j'ai toujours frôlé les jeux sans avoir la niaque d'y rentrer parce que j'avais la syndrome de l'imposteur.
C'est ça, j'allais te demander pourquoi finalement tu l'as pas fait. Tu penses à un petit manque de courage, c'était pas le bon timing. Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait plus tôt? Peut-être t'étais très occupée aussi, hein.
J'étais très occupée à vivre la vie et à vivre tous les tas d'émotions qui pourraient peut-être me permettre aujourd'hui de les restituer sur scène. Mmh. Donc c'est vrai que j'ai une vie très dense. Je pense que j'ai un nombre de vies derrière moi qui font que aujourd'hui je me sens peut-être plus capable de pouvoir les transformer pour les donner sur scène.
Ouais.
En revanche, je pense qu'au début, lorsque j'ai étudié du théâtre pendant ma jeunesse, les métiers me faisaient peur parce que les métiers étaient très binaires. Tu étais soit acteur, donc il fallait que tu te mets dans une agence et que tu attends patiemment que des castings viennent à toi. Tu étais soit auteur, donc tu pouvais pas être à la fois auteur et acteur. Mmh. Et tu étais soit producteur. Aujourd'hui, heureusement, en 2024, on est à une époque où on peut tout faire à la fois. Et c'est formidable. Donc, on peut carrément inventer un métier à sa sauce.
Mmh. J'adore. Alors, j'adore cette question aussi. Qu'est-ce que tu trouves beau? Ça peut être au sens premier, tu vois, et littéral du terme, mais aussi au sens métaphorique. Qu'est-ce qui t'émeut? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce que tu trouves beau autour de toi?
Je trouve beau des choses anodines du quotidien, en fait. J'aime beaucoup me promener très tôt dans la ville. Quand je dis dans la ville, je dis dans n'importe quelle ville où je suis. Je trouve que les secrets de la ville se dévoilent très tôt au matin. Lorsque des gens de la nuit s'immiscent avec des gens du jour et tu te retrouves à prendre un café avec cette espèce de mélange de faune improbable. Et c'est ça que je trouve poétique. Je trouve poétique le fait d'avoir un parfait inconnu qui te dit, bah voilà, votre sac est tombé. La gentillesse gratuite parmi les gens. S'arrêter un instant pour regarder qui nous avons devant nous et pour lui donner une indication dans la rue. Ces moments, en fait, nous laissent une saveur très douce dans la bouche qui nous permettent d'avoir de l'espoir dans les heures et les jours à venir. C'est ça que je trouve beau.
Merci beaucoup. Alors, la question inverse, forcément, et corollaire, c'est qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui te met en rage quand tu l'observes?
L'hypocrisie,
mmh,
et les tabous, les manques de vérité pour soi-même. C'est-à-dire, je trouve intolérable lorsque je vois quelqu'un, et bon, j'ai la tendance à vouloir aider tout le monde, et lorsque je vois quelqu'un qui se raconte des balivernes et qui est absolument persuadé d'un angle de vie qui ne le sert pas. Et puis évidemment tout type d'hypocrisie, parce que je trouve que ça fait perdre énormément de temps. Et c'est là où j'adore la France, parce que je pense que vous êtes quand même les pays des droits de l'homme et les pays où vous êtes très francs, en fait.
Tu trouves?
Oui, vous dites oui ou non de manière extrêmement catégorique.
Parfois sans savoir d'ailleurs vraiment le fond du sujet. Donc on se permet d'avoir des avis pas très informés.
Je trouve que c'est très beau ça.
Ah ouais.
Vous amenez pas vraiment les gens en bateau. Je trouve que vous êtes un pays, bon, je me sens partie de ces pays désormais, bah oui, parce que j'y vis depuis un moment et j'ai toute l'intention d'y rester, fait des gens très déterminés.
D'accord.
Dans le positif comme dans les négatifs. Mais vous avez des idées très claires et assez tranchantes. Et donc, la discussion est toujours possible. Vous n'êtes pas dans les doutes, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous êtes les pays du oui ou du non, j'aime, j'aime pas, Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant pour une Italienne qui, dans son propre pays, qui est baignée des soleils, on dit souvent oui, mais est-ce que ce oui est suivi par des actions ? Pas toujours. Donc, c'est les pays de l'action, la France, et c'est les pays de la démocratie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup ici, chez vous, chez nous.
Chez nous, exactement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je sens beaucoup d'intérêt pour une valeur d'honnêteté. Et en fait, tout autant vis-à-vis de soi-même, d'honnêteté intellectuelle, personnelle, que d'honnêteté en fait dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit. J'ai l'impression que c'est vraiment une valeur qui compte pour toi parce que dans ce que tu me dis là, dans ce qui t'irrite, tu parlais d'hypocrisie. Bon bah donc, bah c'est le fait de pas forcément dire ce qu'on pense, quoi. Donc c'est une forme de malhonnêteté, quoi, d'une certaine manière. Je trouve ça très intéressant parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est pas forcément une valeur qui est beaucoup mise en avant, alors même que pour moi cette recherche de la vérité, elle est clé, et le fait de dire les choses de manière simple et sincère sans essayer de noyer le poisson, quoi, c'est finalement quelque chose qui fait quand même gagner beaucoup de temps.
Exactement, Pauline. On est vraiment dans la même longueur d'onde. Ouais. Je pense qu'on est comme un oignon. Et tout au long de notre vie, on épluche cet oignon, on épluche cet oignon, et on arrive à l'essence de l'oignon. Et plus on grandit, plus cette essence s'élit dans les traits de notre visage. Et du coup, en fait, l'hypocrisie n'a pas lieu d'être. Comme tu le dis, c'est une véritable perte de temps, et nous avons tellement de belles choses à faire qu'est de rallonger à l'eau avec l'hypocrisie des échanges qui pourraient être autrement beaucoup plus intéressants et vivifiants. C'est vraiment dommage.
Et tu penses que ça vient d'où, en fait, cette hypocrisie ? C'est de la peur, en général ?
C'est de la peur. Nous sommes bourrés des peurs, mais encore une fois, c'est les rapports entre nous et nous. Si nous nous libérions de ça et que nous jouions un peu plus à la vie. Et si demain, en sortant de chez toi, tu te disais, tu sais quoi, je vais causer 3 minutes avec les boulangers. Voyons ce que ça amène, en fait. Et au lieu de, pas banaliser, mais quelque part, lorsque nous sommes pris dans nos pensées, dans notre quotidien, on s'autorise pas des rapports très humains. On a des rapports qui sont quelque part un peu. Souvent, on s'autorise pas des rapports authentiques. On a des rapports un peu robotisés. Bonjour messieurs, bonjour madame, que puis-je vous servir ? Un croissant, merci. Et avec ça. Bon, enfin, on parle de la même manière avec tout le monde. Quel dommage. Et si demain, en rentrant chez les boulangers, on lui disait « vous avez une tache sur l'épaule » ou « c'est beau, vos boucles d'oreilles viennent d'où ?» En fait, si on engendrait une petite conversation, en fait, ça fait du bien au cœur. Et c'est là où je pense que certains moments de la journée sont ponctués par cette authenticité plus que d'autres. Quand je t'ai parlé du petit matin, c'est vraiment les petits matins, hein. C'est des 6 heures du matin jusqu'à environ 8h15, avant qu'il y ait tous les gens qui amènent leurs enfants à l'école, etc. La ville, n'importe quelle ville, est magique, en fait, est inondée d'une lumière transcendantale presque. Et puis, tout d'un coup, tout devient comme un ordi.
Oui, la vie reprend voilà. De manière un peu automatique, quoi.
C'est très automatique et on ne se laisse pas surprendre par l'autre, alors que l'autre est toujours un terrain fertile pour nous inspirer pour la suite.
Bien sûr. Et puis en plus, comme tu dis, je trouve que c'est quand on se laisse aller un peu à cette authenticité dont tu parles, et puis tu vois juste le fait d'être sincère, libre et soi-même, et d'oser dire j'adore ton pull, même faire un compliment, finalement les gens ne feront jamais de compliment parce qu'ils osent pas, en fait ils ont peur presque de déranger, mais c'est ça qui crée une petite alchimie, c'est ça qui crée le fait qu'on se rappelle de la conversation. Je dis pas qu'il faut faire des compliments tout le temps, c'est pas ça, mais juste en fait quand vous pensez quelque chose, le dire, en fait ça fait un bien fou, quoi, ça fait un bien à soi, et puis les autres s'en rappellent, et ça crée un moment, je trouve, de mémoire, quoi, tu vois, dans une relation. Donc moi, je suis 100% alignée avec toi, et je trouve que on se laisse pas trop aller, pas en tout cas assez, parce qu'on est trop dans notre train-train habituel.
Mais quand on est dans les train-trains, est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce qui me fait sentir bien ? Et en fait, souvent, ce qui nous fait sentir bien, c'est des toutes petites choses, comme tu dis, justement. Mais si on s'est posé plus souvent la question, qu'est-ce qui me fait sentir bien ? C'est toute la question.
C'est vrai.
De la recherche d'une identité qui soit vraiment dépourvue de tout chaos extérieur, en fait. Et c'est aussi ce que j'essaye d'amener avec les spectacles dévorantes. Qu'est-ce qui nous fait du bien, vraiment? Eh bien, recherchons-le. Et nourrissons-le.
Un peu de pasta quand même, al dente, ça marche à tous les coups.
Il faut les nourrir tout le temps. C'est pour ça que je parle d'une forme de nutrition de l'esprit.
Ouais, je suis d'accord. Allez, je me suis un peu égarée. Revenons à nos moutons. Encore quelques petites questions. Est-ce qu'il y a une phrase, une maxime, une citation qui te plaît particulièrement, qui te touche, qui t'a peut-être aidé à certains moments de ta vie? Je sais pas, peut-être que t'as sur ton téléphone ou chez toi quelque part écrite.
C'est une phrase de la Boétie.
Ok.
Qui parle de tyrannie. C'est un aphorisme. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux.
Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. C'est très beau. Je te remercie. Encore deux questions. Celle-ci, je l'aime bien. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? Ce que je veux dire par là, c'est que tu constates que le monde autour de toi n'est plutôt pas en phase avec... une chose que toi tu crois. Bon, alors on en a un peu parlé, hein, le fait de ne pas être une victime, je pense que clairement ça c'est une croyance controversée. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit?
Oui, en fait je suis très mauvaise élève, je ne lis pas les faits divers, je ne lis pas les news, parce que je n'ai pas envie que mon esprit soit pollué par ce qui arrive dans les mondes sur quoi j'ai aucune main. En fait, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un des grands de ces mondes, et du coup, qu'est-ce que j'y peux? Et voilà, ça c'est quelque chose qui fait que lorsque on passe du temps avec moi, on parle des plein d'idées, mais surtout pas des politiques ou des religions ou des choses qui peuvent controverser les mondes, en fait. J'essaye d'être dans la boule.
Et puis, ce qui est drôle, c'est que là où je te rejoins, c'est que c'est controversé de ne pas se tenir au courant des actualités. Et je le fais un peu aussi, peut-être moins que toi, mais où les gens me disent, mais attends quand même, t'es pas au courant, comment tu fais? Je dis, non, mais t'inquiète pas, quand il y a vraiment quelque chose d'important, ça finit par arriver. Enfin, d'une manière ou d'une autre, je vais être tenue au courant. Le monde est ainsi fait que mon père, ma grand-mère, enfin, n'importe qui, ça va arriver. Mais c'est vrai que ce n'est pas une démarche proactive, parce que j'essaye de filtrer, en fait, sur ce qui m'intéresse, quoi, tout simplement.
Et qu'est-ce qu'on y peut, en fait? Donc oui, il y a ça qui est quelque chose que mes très proches savent. C'est un peu frustrant de converser avec moi parce que j'ai cette, je suis un milieu de la table et tout ce qui m'intéresse est de l'ordre d'une forme de poésie du quotidien qui n'a peut-être pas grande chose à faire avec les bombardements médiatiques qui est celui de nos jours. J'essaye d'ailleurs d'utiliser les réseaux sociaux qui sont bien évidemment très utiles, mais avec des justes doses. Il y a un vrai dosage et un vrai choix de minutage par jour également.
D'accord.
Pour permettre à mes mains d'être libres. Parce que je me rends compte que mes mains fourmillent quand je passe trop de temps avec mon portable. Donc, ce n'est pas de l'excellente compagnie. Merci, ça ne me fait pas du bien. Et voilà. Donc, j'essaye quand même de rester très humaine. Et malheureusement, aujourd'hui, je trouve que c'est... c'est un peu un contre... Comment on dit ça en français?
Un contre-courant?
Voilà. Le fait de vouloir rester humaine, c'est un peu un contre-courant avec ce qu'on nous impose socialement.
C'est vrai.
Et plus tu sens la pression sociale, plus il faut la lâcher parce que ça n'a rien à voir avec l'identité personnelle. Et l'identité personnelle, c'est ce avec quoi nous allons dans les tombeaux. Donc voilà, il faut quand même garder ça dans l'esprit, de cultiver son petit jardin, secret ou pas, et de faire gaffe en fait à ce qui sont les conditionnements extérieurs et d'essayer.
Dont on se rend pas compte parfois en plus.
On se rend pas compte et on croit que c'est nous et que la vie est comme ça. En fait, non, tu peux vraiment dessiner ton jardin.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis, dont tu te rappelles? Ça peut être récemment ou ça peut être même, tu vois, il y a quelques années, tu te rends compte que, en fait, non, tu as changé d'avis.
énormément. Je ne suis pas très cohérente parce que je laisse la vie venir et je laisse la vie donner des réponses. Donc, lorsqu'on parlait d'échecs, par exemple, c'est vrai qu'il y a eu des moments de ma vie où j'étais extrêmement entêtée pour poursuivre des directions et je voyais que ça bloquait et j'ai continué. Mmh. Et j'ai continué, je me faisais mal, etc. Donc, c'est là où j'ai changé d'avis. Oui, il faudrait peut-être que je change d'avis. Mais il y a des sujets en particulier où j'ai changé d'avis parce que la vie a voulu autrement. Avec moi, j'étais persuadée d'être stérile longtemps et puis je suis tombée enceinte de manière presque fortuite et j'ai croyé d'ailleurs avoir une grossesse hystérique parce que je ne pensais pas être enceinte jusqu'à voir mon enfant. Je disais mais en fait non, c'est pas pour moi, mais je suis vraiment enceinte et la gynéco avait je pense compris que j'étais persuadée de ne pas l'être. Et ça, c'est parce que je me sentais pas en mesure de élever un enfant. J'étais bourrée des peurs. Et je pensais que tout simplement, ça n'était pas pour moi. Et du coup, je transpirais froid toutes les nuits. J'ai mouillé les matelas, etc. Et j'étais persuadée que ce n'était pas pour moi. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de ce qui est arrivé. C'est-à-dire deux garçons. Et j'apprends de tous les jours et j'apprends à devenir cette femme que je ne pensais jamais être en fait et à me laisser surprendre par cela. La maternité a été effectivement quelque chose de complètement inattendu et qui m'a complètement bouleversée dans l'esprit du don. Et aussi du dosage du don, c'est assez intéressant parce que doser, ce n'est pas moins aimer en fait, c'est préserver pour la suite. Donc c'est assez, tout est leçon en fait. Mais il y a plein de choses que j'aurais pas dit. Ben, l'homme avec qui, par exemple, je partage ma vie, je l'ai connu et très rapidement, voilà, nous sommes restés enceintes. Et jamais j'aurais dit que j'aurais partagé ma vie avec un parfait inconnu et qui n'en est plus un, évidemment. Mais voilà, les choses évoluent, les formes des couples aussi évoluent, c'est-à-dire j'ai vécu dans les passés des couples où j'étais extrêmement fusionnelle avec l'autre et aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas. Il y a une base amicale très forte et chacun vraiment veut s'emparer de l'autre pour être mieux avec l'autre. Il y a toujours des choses nouvelles en fait dans toute forme de co-création en fait qui se font et je me laisse surprendre par ça. Disons que je suis disponible à la vie.
Ma dernière question pour toi, Eleonora, c'est une question que j'aime beaucoup parce que j'adore lire. Quel est le livre ou quels sont les quelques livres qui t'ont particulièrement marqué, qui ont été des livres importants dans ta vie, qui t'ont fait réfléchir? Je veux bien que tu nous en parles et puis pourquoi en fait ils ont joué un tel rôle dans ta vie.
D'accord.
C'est pas une question facile parce que pour les littéraires ou les amateurs de culture, il y en a beaucoup des livres. Donc c'est pas facile de choisir.
Certainement, il y a un livre français qui m'a fait aimer la France et les sensationnels possibles, et qui est un grand classique. C'est La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Qui m'a permis aussi de comprendre que ce n'est que par l'observation que on peut comprendre l'autre et sait comprendre aussi profondément. Et c'est un livre qui, tel une Bible, je continue de feuilleter sans cesse parce que je trouve que c'est l'encyclopédie des sensations. C'est incroyable. Ça, c'est pour les lectures françaises. Et pour les lectures italiennes, il y a un auteur qui était un grand scénariste italien qui s'appelle Ennio Flaiano et qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Le ombre bianche.
Je suis très contente que tu le dises en italien.
Et c'est toute une série d'anecdotes absolument improbables sur des gens qui se trouvent à vivre un morceau de vie ensemble et qui sont mal à l'aise de le faire au début et ensuite trouvent leurs aises. Et ça, ça me parle beaucoup. Et puis, cette vision justement cinématographique de la vie, c'est quelque chose que j'ai à moi. C'est enraciné, j'en peux rien. C'est comme ça que je vois ma vie. C'est un film tout le temps. Voilà. Donc, je pense que j'ai pas mal ces deux influences. Et pour ce qui est de la littérature, et puis évidemment, plein de films, et ça, on en a déjà parlé, oui.
Éléonora, je te remercie. Tu vois, tu me donnes envie de le lire, Les Ombres Blanches, je ne connaissais pas. Je vais malheureusement devoir le lire en français. Mais je te remercie mille fois pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé, pour le spectacle aussi. Alors justement, pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient te suivre, te connaître davantage, te contacter, peut-être discuter avec toi, le meilleur moyen de le faire, c'est Instagram, n'est-ce pas?
Oui. Instagram, c'est toujours le meilleur moyen de me rejoindre puisque je gère mon compte moi-même.
Ouais, et tu es très disponible et présente. Et puis, bien sûr, le spectacle. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots les dates actuelles du spectacle, même si ça risque d'évoluer? Et puis comment faire pour pouvoir venir te voir, quoi, tout simplement?
Donc, Pauline Dévorante, actuellement, est au Théâtre des Mathurins jusqu'à la fin du mois de mai. Peut-être un tout petit peu du mois de juin. Les mieux à faire, c'est de regarder sur les sites des réservations en ligne les dates qui sont disponibles. Nous serons également à Avignon en été, donc
formidable,
au festival.
Bravo, c'est formidable.
Au Théâtre du Petit Louvre. Mmh. Et puis, on sera à la rentrée dans un théâtre que nous sommes en train de discuter encore, mais dans un plus grand théâtre pour permettre à plus de monde de venir voir Dévorante.
Oui, parce que c'est déjà bien complet et je crois que c'est pas évident d'avoir des places tout de suite, si j'ai bien compris, puisque c'est déjà très prisé. Un grand bravo à toi. Merci. Reste aussi authentique, aussi italienne. J'ai envie de manger des pâtes. Vraiment, ne change pas et je te remercie mille fois d'avoir accepté l'invitation.
Merci Pauline, merci de m'avoir reçue. Grazie.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur paulinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.